6h à Paris, 8h30 à Téhéran.
RFI Matin.
Bonjour Jeanne Bartoli.
Et bonjour Andréane et bonjour à tous.
Dans ce journal, Jeanne, l'appel au soulèvement de Donald Trump.
Et le président américain appelle les Iraniens à prendre le contrôle de leurs institutions et promet que de l'aide est en chemin, alors que la répression du mouvement de contestation a fait des centaines, peut-être déjà des milliers de morts selon les sources. On va faire le point à Téhéran avec Siavosh Ghazi. Dans ce journal aussi, l'armée syrienne et les forces kurdes qui font état dans la nuit de nouveaux combats à l'est d'Alep, secteur dont Damas veut reprendre le contrôle. À suivre également en Ouganda, quelques heures avant la fin de la campagne électorale, avant la présidentielle et les législatives de demain, Internet a été totalement coupé dans tout le pays. On parle aussi de cette année 2025 qui a été la troisième, la plus chaude jamais enregistrée sur notre planète. Et puis la CAN, évidemment. Les demi-finales, c'est ce soir. C'est à vivre sur RFI, Sénégal-Égypte et Nigeria-Maroc.
Face à la répression brutale du régime iranien, Donald Trump promet que de l'aide est en route.
Le président américain ne précise pas quel type d'aide et appelle les Iraniens à continuer de manifester. Il va même plus loin, appelant les Iraniens, je cite, à prendre le contrôle de leurs institutions. Donald Trump assure que les États-Unis agiront de manière très forte si les autorités iraniennes commencent à exécuter des personnes arrêtées lors des manifestations. Selon la diplomatie américaine, une première exécution est prévue aujourd'hui. La répression du régime de la République islamique d'Iran qui a fait au moins 734 morts selon l'ONG Iran Human Rights basée en Norvège qui estime toutefois que le nombre réel de morts pourrait s'élever déjà à plusieurs milliers. Un mouvement né il y a 18 jours et sur lequel RFI revient ce matin avec Siavosh Ghazi, correspondant en Iran. Retour sur les derniers jours de mobilisation et sur les racines de la colère. Écoutez.
En fait, pendant ces 4 jours, donc essentiellement et en particulier jeudi et vendredi, mais aussi samedi et dimanche, les gens se retrouvaient dans leur quartier, par exemple sur une place centrale dans un quartier. Ce qu'on a constaté aussi depuis le début du mouvement, c'est qu'après la grève au bazar, il y a eu beaucoup de manifestations dans des petites villes de province qui ont entre 20, 30, 40, 100 000 habitants, des endroits où il y a beaucoup de gens très pauvres qui ont rejoint le mouvement à cause d'une situation économique de plus en plus difficile, une inflation qui s'est accélérée depuis un an et demi, avec les prix en particulier de produits de consommation courante qui ont plus que doublé en un an. Certains produits, par exemple le riz, a triplé. Et puis ensuite, tout cela a été renforcé par une décision du gouvernement qui a décidé de libérer les prix. Par exemple, du poulet qui a augmenté de 60%, le prix de la viande a doublé en 2 jours, le prix de l'huile de cuisine a triplé en quelques jours. Et en contrepartie, le gouvernement a donné simplement une aide équivalente de 6 euros par personne par mois à chaque Iranien, ce qui est largement insuffisant, ce qui a provoqué encore plus de colère dans ces couches populaires et moyennes qui ont abouti aux manifestations qu'on a pu voir.
Siavosh Ghazi, RFI a pu joindre après 4 jours de blocage quasi intégral des communications téléphoniques. Désormais, les communications de l'Iran vers l'étranger sont à nouveau possibles, ce qui n'est pas le cas pour les communications de l'étranger vers l'Iran. Une situation qui inquiète énormément la communauté iranienne exilée à Paris, comme cette restauratrice. Elle vit en France depuis de nombreuses années. Laurence Théo l'a rencontrée.
Il faut un peu de temps pour que Anna, c'est un prénom d'emprunt, accepte de parler. Dans un Iran coupé du monde, sans Internet, elle ne parvient pas à joindre ses proches.
Quand j'appelle en direct, ça sonne, mais ça sonne pas chez eux. Mais j'ai des amis qui ont reçu l'appel de leur famille de l'Iran. C'est que de l'Iran, apparemment, de certaines villes, on peut joindre la France. Même à l'intérieur du pays, c'est compliqué. C'est qu'ils s'envoient des SMS et ils reçoivent les SMS quelques heures après.
La restauratrice iranienne a vu les terribles images de la répression.
Il y a plein de morts lors de l'enterrement avant-hier. Il y a eu des tirs sur la famille qui sont allés enterrer leur famille. Je vois les gens mourir tous les jours et j'entends que rien ne change et que tous les jours on nous promet de venir à l'aide mais personne ne vient à l'aide.
La jeune femme se sent impuissante. Elle voudrait aider les nombreux Iraniens qui manifestent contre le régime des mollahs.
Moi j'ai envie de juste repartir un jour dans mon pays. J'ai envie de juste dire d'arrêter de taper la honte à l'international.
Votre maman est repartie.
Elle est repartie il y a 10 jours. J'ai envoyé des SMS depuis 4 jours. Elle n'a toujours rien reçu et je n'ai pas d'appel de sa part.
À peine la conversation terminée, Anna pianote sur son portable. Elle essaie désespérément de joindre sa mère.
Le reportage de Laurence Théo a noté qu'hier, la mission iranienne à l'ONU a accusé les États-Unis de chercher un prétexte pour intervenir militairement en Iran. C'était dans un message accompagné d'une lettre de protestation adressée aux dirigeants de l'ONU.
En Syrie, l'armée syrienne et les forces kurdes font état dans la nuit de nouveaux combats à l'est d'Alep.
Un secteur dont Damas veut prendre le contrôle. Selon une source militaire syrienne, les forces démocratiques syriennes dominées par les Kurdes visent des positions de l'armée et des maisons civiles à l'est d'Alep. Les FDS font part pour leur part de avoir repoussé une tentative d'infiltration. Hier, l'armée syrienne avait demandé aux forces kurdes de se retirer d'une zone qu'elle contrôle à l'est de cette grande ville d'Alep. De son côté, l'AKP, le parti au pouvoir en Turquie, accuse les combattants kurdes de saboter les efforts de paix entre la Turquie et le PKK. Sur l'implication de la Turquie dans la région, écoutez Fabrice Balanche, il est maître de conférence à l'université Lyon 2.
Évidemment, hein, l'attaque est la meilleure des défenses. On sait très bien que c'est la Turquie qui a donné les moyens militaires à Ahmed el-Sharar de s'emparer de ce quartier kurde et puis de lancer aujourd'hui l'offensive contre le nord-est syrien en exigeant que les forces démocratiques syriennes se retirent à l'est de l'Euphrate pour abandonner la ligne de front, la ligne de défense et avoir plus facile ensuite pour pouvoir passer l'Euphrate et attaquer Raqqa et Deir ez-Zor. Les Kurdes étaient le fer de lance de la lutte contre l'État islamique. Aujourd'hui, ils sont complètement lâchés par les États-Unis, par l'Europe. Ce qui est en train de faire le nouveau régime syrien contre les minorités, ça veut dire qu'on va avoir de nouvelles vagues de migration. Les Kurdes, les Alaouites, les Druzes qui seront chassés de Syrie. Parce que Ahmed el-Sharar veut en finir avec les Kurdes. Tout d'abord, récupérer le pétrole et les Kurdes contrôlent. C'est à peu près 90% du pétrole syrien dans la province de Deir ez-Zor. Et éliminer toute forme d'autonomie en Syrie.
Le chercheur Fabrice Balanche au micro d'Yelena Tomic.
Et sur RFI tout à l'heure, notre grand invité international Kerim Kamar, représentant en France de l'administration autonome du Nord et de l'Est de la Syrie. Rendez-vous 6h20, temps universel. À la une également, Jeanne Louganda à la veille de deux scrutins cruciaux.
Élection présidentielle et législative demain, la campagne est close depuis hier soir. Yoweri Museveni au pouvoir depuis 40 ans et candidat pour un 7e mandat. Face à lui, le chanteur devenu figure principale de l'opposition, Bobby Wine, candidat malheureux en 2021. Quelques heures avant la fin de cette campagne, Internet a été coupé dans tout le pays. Décision de la commission ougandaise des communications qui évoque un risque de désinformation et d'incitation à la violence. Il y a une semaine, les autorités avaient pourtant indiqué qu'elles ne couperaient pas Internet. Écoutez la réaction de Nompulo Simanje de l'Institut international de la presse qui se bat pour la liberté d'expression.
Avec cette décision, l'Ouganda rejoint la liste des pays autoritaires qui censurent l'information pour empêcher le reste du monde de suivre la situation dans le pays. Cela permet aux autorités de se protéger du regard extérieur et de ne pas avoir à rendre de compte. C'est une décision regrettable, mais malheureusement prévisible en Ouganda, où de très nombreux cas de violation des droits de l'homme ont été enregistrés avant même le scrutin. Cela veut dire que les gens, y compris les journalistes et les militants des droits de l'homme, ne pourront pas communiquer ni partager leurs informations sur ce qui se passe sur le terrain, alors que c'est un événement politique majeur pour les Ougandais. Les journalistes ne pourront pas couvrir le scrutin en toute liberté et en toute sécurité, et les organisations indépendantes ne pourront pas suivre le vote, ni savoir s'il est réellement libre et juste. Couper Internet, c'est saper la crédibilité des élections elles-mêmes. C'est pour cela que nous sommes très préoccupés, mais aussi parce que cela empêche les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme de rapporter toute violation qui pourrait se produire durant ce blackout.
Nompulo Simanje au micro d'Alexandra Branjon.
Les États-Unis dans le viseur de l'ONU.
Et qui réclame une enquête rapide et indépendante après la mort de René Nicole Good, abattu par la police de l'immigration à Minneapolis. C'était il y a une semaine. Hier à Détroit, alors que Donald Trump était de passage dans la ville, quelques centaines de manifestants sont descendus dans la rue pour réclamer justement le départ des hommes de l'ICE, les agents de cette police de l'immigration. Reportage Nicolas Feldman.
Sur les pancartes et dans les slogans, le message est le même. Donald Trump n'est pas le bienvenu à Détroit. Jackson, l'un des organisateurs du mouvement.
On veut s'opposer au programme réactionnaire de Trump. Et ici, à Détroit, la municipalité travaille avec la police de l'immigration. Notre message, c'est donc de dire non à la terreur de Trump partout où elle se manifeste.
Pour Marie, cette terreur se manifeste jusque dans sa ville. Détroit, d'après la presse locale, le nombre de personnes arrêtées dans l'état du Michigan par la police de l'immigration a bondi de plus de 200% en un an.
J'ai quatre nièces qui ont été adoptées. Elles sont originaires du Pérou et du Chili et désormais, elles doivent tout le temps avoir leur passeport sur elles pour prouver qu'elles sont bel et bien des citoyennes américaines.
Dans le cortège, Skywalker réclame lui surtout la fin de l'impunité pour l'agent responsable de la mort de René Nicole Good.
Avant même la collecte des preuves, ils ont innocenté l'agent qui l'a assassiné. Et ils ont déclaré qu'aucun agent de ICE ne serait puni. En réalité, le problème, c'est que tout ce qu'ils font a été rendu légal par l'establishment.
Dimanche, Donald Trump a justifié à sa façon la mort de René Nicole Good, expliquant qu'elle avait fait preuve d'un manque de respect flagrant envers les forces de l'ordre. Nicolas Feldman, Détroit, RFI.
En plus bref, c'est l'un des grands noms de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Avant Rosa Parks, il y avait eu Claudette Colvin, cette afro-américaine alors âgée de 15 ans qui avait refusé de céder sa place à une femme blanche dans un bus de Montgomery dans l'Alabama. Sa fondation annonce son décès à l'âge de 86 ans.
Mais c'est désormais officiel, Jeanne, même si on s'en doutait.
Oui, l'année 2025 a été la troisième la plus chaude jamais enregistrée sur notre planète, selon l'agence européenne Copernicus. Pas de record battu l'an dernier, mais pas vraiment de quoi se réjouir, Paul Inglaise.
Ce n'est pas parce qu'un nouveau record n'a pas été battu que la tendance s'est inversée. Les 11 dernières années ont été les 11 années les plus chaudes jamais enregistrées, et pour la première fois sur une période de 3 ans, la moyenne de température a dépassé de plus de 1,5 degré le niveau pré-industriel. Évidemment, en 2025, le réchauffement a varié selon les régions. Samantha Burgess, responsable stratégique du climat à Copernicus.
Sous les tropiques, l'anomalie de température en 2025 était inférieure à celle de 2023 et 2024. Cela reflète une période sans phénomène El Niño ou La Niña fort, ou une période avec un léger phénomène La Niña en 2025.
Au contraire, l'Antarctique a connu son année la plus chaude. En février dernier, la banquise des deux pôles réunie est tombée à son plus bas depuis le début des observations par satellite à la fin des années 1970. Ce réchauffement est principalement dû aux activités humaines et notamment aux émissions de gaz à effet de serre. Faute de les avoir réduites, le franchissement sur une longue période de la limite d'un réchauffement de 1,5 degré fixé par l'accord de Paris pourrait être franchi officiellement dès la fin de la décennie, soit 10 ans plus tôt que prévu.
Paul Inglaise.
Football, ce sera ce soir à vivre en direct sur les antennes Afrique des RFI.
Sénégal, Égypte, Maroc, Nigeria, les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Écoutez le sélectionneur du Maroc, le franco-marocain Walid Regragui. Il se réjouit de la qualité des joueurs présents dans ce dernier carré.
Dans le dernier carré, on doit avoir Salah Ballon d'Or, Hakimi Ballon d'Or, Lookman Ballon d'Or, Osimhen Ballon d'Or, Mané Ballon d'Or. Ça veut dire qu'on a pratiquement les meilleurs joueurs des dernières années africains. Pratiquement les meilleures équipes. Quand on voit le Nigeria, c'est 17 demi-finales. L'Égypte, ben, eux, ils ont un ticket à chaque fois. Ils se posent pas de questions. Sénégal, ces dernières années, c'est une des meilleures équipes, voire la meilleure équipe en Afrique. Et nous, on est en train de remonter depuis 4-5 années pour être un des leaders en Afrique. Donc aujourd'hui, si on regarde les stades, on va avoir un stade à Tanger, je crois que c'est 80 000. Un stade à Rabat, c'est 68 000. Les deux, ils vont être pleins. C'est la meilleure pub qu'on pouvait avoir pour le football africain.
Valide Regragui au micro RFI de Christophe Jousset.
Merci Jeanne Bartoli. Et bienvenue sur RFI 6h13 à Paris. Ravi de vous retrouver en ce mercredi 14 janvier 2026. On va patienter ensemble jusqu'à ce soir les demi-finales de la CAN. À suivre bien sûr sur les antennes africaines d'RFI et sur notre site RFI.fr. À Casablanca au Maroc, les cafés et les restaurants se préparent à recevoir du monde ce soir pour ces demi-finales, notamment celle qui opposera les Lions de l'Atlas aux Super Eagles. Évidemment, l'heure est au pronostic.
C'est le Maroc qui va gagner 2-0. Comme le match avant. Brahim Diaz aussi, c'est lui qui va marquer le premier but. Et le deuxième but, c'est Achraf Hakimi.
Et c'est un Marocain qui le dit. On verra ça en tout cas. Verdict ce soir. Reportage à écouter dans le journal de 7h. Maroc-Nigeria à suivre à 20h, temps universel. Et avant, Égypte-Sénégal, 17h TU. Vous vivez ça avec le service des sports d'RFI sur place et à Paris. Ce matin, nos journaux de la CAN avec Christophe Diremzian toutes les heures. Et Juan Gomez attend vos pronostics. Qui va aller en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous nous appelez, vous nous écrivez. Rendez-vous 8h10, temps universel. De quoi parle-t-on aussi ce matin? Eh bien, de l'Iran. Nous entendrons Siavosh Ghadi, notre correspondant à Téhéran, dans tous nos journaux ce matin. Le mouvement de contestation continue en Iran et fait toujours face à une répression violente. L'aide est en route, promet sans plus de détails Donald Trump. Et la situation est bien sûr scrutée de près par les voisins de l'Iran, comme en Irak, où certains craignent.
Déjà commencé, c'est sans recours. Quand elle saura ce qu'il sait, ils feront l'amour. Et arrêtons d'en parler, ce sera court. Et chacun de son côté fera un tour vers l'éternité. Pourvu qu'un jour, ils puissent se retrouver. Pourvu qu'un jour, ils puissent se retrouver. Pas du velours, c'est pas des contes de fées. Chacun son tour, le sien est arrivé. Le cœur lourd, il doit s'exiler. Il a dit ce qu'il pense, il prendra moins de risques en tentant sa chance. Faire un pays, la devise fraternelle, passer la vie qu'il voulait passer avec elle. Faire mon pays, la devise fraternelle, quoique ces temps-ci, on lui soit pas bien fidèle. Le temps leur est compté, le compte à rebours a déjà commencé. C'est sans recours, quand elle saura ce qu'elle sait, ils feront l'amour et arrêteront d'en parler.
Konnichiwa bitches, konnichiwa bitches, konnichiwa bitches.
Bah les couilles, qui a tué Kennedy? Je veux savoir quel enfoiré a tué Kenny. Souris taline, décode sens de la vie, femme fontaine me fait danse de la pluie. Change de parvé, ouais. Change de niafo, ouais. Ouais, change de passeport, ouais. Check, tu vois flou comme Ray Charles qui baisse, tu vois pas le rapport. Tu vois pas le rapport, non. Ni aujourd'hui, ni le jour d'après. Moitié de casseurs flotteurs et sur tous les fronts comme Boukake, hey. Yeah. Toi tu parles comme Jeannin Zanamin, t'as la bouche plâtrée.
Non, non, non.
T'avais rien connu de plus dur depuis ton BEP. Allez, change de techa, ego change d'amidale. Bien sûr c'est nous les rois du royaume animal. Y'a trop de flow sous le capot donc y'a cheval fiscal. Et toi tu me parles de quoi, t'es juste en phase finale. Image pétée, musique marketée tellement bien assortie. Que je parle pas d'ordi quand je dis qu'il faut que je mette à jour ma base virale. Mais je crache dedans comme dans une poké. Ouais, je crache dedans comme dans bouche d'ego. Trouve leurs albums dans fortune coquée. Je vais tous les shooter comme. C'est pas le retour des casseurs. Respire. Tu veux ta dose, voilà le meilleur de ce que je fais de pire.
Konnichiwa bitches. 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 Konnichiwa.
Pas d'une vie en leasing, jouer ou rouler dans une vieille série B. J'ai connu période de vache maigre, maintenant je veux manger du bœuf de Kobe. L'industrie fait dans le streaming, je suis tellement court ton boisson stérilée. Comme celle à qui j'ouvre mon cœur et qui aura bientôt à cœur de me loter. Je vais devoir lui dire qu'aimer ça fait mal comme dire la vérité. Qu'un jour Cupidon m'a donné rendez-vous en terre étrangère. Ouais. Elle réécoutera mes maquettes en pleurant juste avant de les liquer. Ah bon, l'amour est dans le pré? Ici, il est surtout dans le pré bancaire. Je parle aux fidèles comme un messie, envoie mes sons comme des pains bénis. Gère ma paroisse comme un SB. Où t'as vu que tout travail mérite stagiaire? Hello le monde, compte pas sur moi pour que je sois clean. Hello. Loi duple cupide, on redescend la courbe de Darwin. Plein de petits CF qui nagent le crawl dans les couilles de Marvin. C'est moi l'inconnu du grand public avec un double platine. Faut que tout paye comptant, faut que tout paye au black, faut que tout paye en cash. J'ai trop perdu mon temps, j'arrive en retard comme le nouvel an ouache.
J'ai juste fermé les yeux, je me suis un peu endormi. Je me souviens qu'à mon réveil, le monde m'avait distancé. Et rien que je parle hébreu, les mecs se disent encore les projets d'avenir sans espoir, comme le tennis français. J'ai juste fermé les yeux, je me suis un peu endormi. Je me souviens qu'à mon réveil, le monde m'avait distancé. Et rien que je parle hébreu, les mecs se disent encore les projets d'avenir sans espoir.
Konnichiwa, bitches. 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 Konnichiwa, bitches.
Konnichiwa, bitches. Konnichiwa, bitches. Konnichiwa, bitches. Konnichiwa, bitches. Konnichiwa, bitches. Konnichiwa, bitches. Konnichiwa, bitches. Konnichiwa.
actif, le mix des cultures.
To me, and when it got dark.